Merci. Donc, nous allons continuer avec une autre communication qui parle en partie d'un pays où on parle aussi des années 70, mais malheureusement, la communication de Pierre Rabout s'intitule 1980, l'âge de raison du punk, Suisse, France et Allemagne.
Alors, donc, après un Belge, vous avez pire, c'est en Suisse. Donc, non seulement je dis 70, mais je dis aussi 80 et 90. Donc, je vais essayer de m'adapter. Le punk, comme on l'a entrevu déjà aujourd'hui pendant ces deux jours de colloque, on voit que c'est un mouvement qui peut prendre des formes multiples, qui est traversé par différentes vagues, des générations, des tendances qui sont parfois contradictoires, voire conflictuelles. Et c'est vrai pour l'histoire du punk en France, et ça l'est encore plus quand on considère ce mouvement-là d'un point de vue international. Mais constater l'hétérogénéité du punk, ça ne nous avance pas tellement vers une meilleure compréhension de ce que ça représente historiquement. Donc l'hypothèse que je pose, c'est qu'il existe des tendances fortes, cohérentes et récurrentes, qui peuvent être analysées au sein d'une même scène nationale ou au niveau international. Donc mon intervention d'aujourd'hui, elle souhaite ainsi analyser comment, à un moment donné, il y a des phénomènes comparables qui peuvent être observés dans différents pays. Il s'agit d'étudier donc ici ce que j'appelle dans mon titre l'âge de raison du punk autour de 1980. Et par cette expression, je souhaite mettre en lumière des phénomènes communs à différents pays autour donc de 1980. À ce moment-là, plusieurs scènes, elles sont soudain prises d'une envie de problématiser leurs pratiques et d'entreprendre une auto-réflexion quant au sens de ces pratiques. Donc voilà, pour donner rapidement un plan, donc je vais commencer par préciser un peu le cadre de réflexion, vu que c'est une perspective internationale où je vais vraiment sortir des tendances fortes, voir que ça ne tombe pas de nulle part ce que je vous avance ici. Avant de présenter brièvement ce qui vient avant 1980, pour ensuite plus insister sur cet âge de raison des années 80. Donc sur le cas des transferts transnationaux à l'identité régionale, donc ce que j'avance ici, c'est des recherches que j'ai entreprises dans le cadre de ma thèse, qui fait une comparaison entre quatre pays, donc RFA, RDA, France et Suisse, avec des coups de projecteur plus ou moins prononcés sur 13 villes différentes. Donc c'est la carte que vous avez là en immense. Et pour dire rapidement, c'est l'approche comparative où il s'agit d'identifier les différences entre scènes et de les mettre en rapport. Puis à partir de là, donc dans mes observations, ça a été, j'ai pu à la fois confirmer qu'il y a des transferts au niveau international, mais aussi qu'il y a des fortes identités locales pour chaque scène. Et donc la base pour mener ces recherches, c'est une recherche en histoire avec comme source les productions musicales et les imprimés, mais aussi les documents institutionnels tels que archives de police et des différents rapports gouvernementaux. Donc, juste pour donner sur des exemples sur ce qui vient avant 1980, alors je vais vous donner des exemples surtout non français, vu que c'est plutôt des cas français qui vont être cités pendant ces deux jours pour qu'on écoute aussi d'autres choses. Donc, je vais essayer de faire très vite, mais juste pour donner un peu le contraste. Pendant les toutes premières années, on est face à une scène qui est très hétérogène, que ce soit dans la musicalité, mais aussi dans le look ou d'autres dimensions, ce qui est assez logique du fait que, à mon avis, dans ceux qui se disent punk ou qui sont dits être punk, plusieurs d'entre eux ne savent pas exactement de quoi il s'agit. La panoplie punk est en cours d'élaboration. Donc ici, je vais juste passer un court exemple, un court extrait du groupe Kleenex. C'est chanté en suisse. Cette chanson est en anglais, mais bon, je vais pas essayer de la chanter. En plus, c'est un très court extrait, donc voilà, je vais passer là-dessus. Mais si on doit donner des traits récurrents pour ces premières années, alors j'ai mis ici labels commerciaux, mais donc si il y a des labels indépendants qui existent déjà à ce moment-là, les groupes phares n'hésitent pas à rejoindre les labels commerciaux. Il n'y a pas, disons, de comportement clivant. On pense notamment à des groupes qui rejoignent finalement des labels importants comme Stinky Toy chez Polydor ou Asphalt Jungle chez Pathé. En Allemagne, on a aussi Felferbun qui va chez EMI. Et puis pour la Suisse, si il y a une intégration moins forte dans l'industrie culturelle, néanmoins, il n'y a pas de problème à passer à la télévision. Donc ici, il n'y a pas de comportement clivant. Sur le champ sémantique présent dans les chansons, on a aussi vaguement, comme globalement non contestataire, c'est que dans les paroles des groupes de ces premières années, c'est seulement à de très rares exceptions qu'on peut observer des mentions, disons de façon vraiment littérale, à des enjeux politiques. Il n'y a pas de dénonciation, d'accusation ou d'appel à la révolte vraiment littérale. Les thèmes qui dominent sont plutôt ceux de l'ennui, de la défense ou même de l'amour, et aussi tout ce qui a trait au scandale. Non pas que ces thèmes n'aient pas de portée politique, mais il n'y a pas de contestation explicite qui se rapprochait d'un engagement politique plus traditionnel. Et justement, le troisième point, c'est que ces groupes, ils sont dans le rejet des formes d'engagement politique, notamment ceux liés au parti, et dans un dénigrement notamment de la génération précédente des hippies. Et il n'y a pas très peu de participation à des collectifs extérieurs à la scène. Donc maintenant, pour venir sur ce qui fait le cœur de ma présentation sur cette auto des années 80, ces éléments-là, ils vont changer. Ainsi, le champ sémantique des paroles et des textes présents dans les imprimés, il va prendre une tournure beaucoup plus conflictuelle. Donc par conflictuel, parce que, voilà, il y a ces termes de conflit, de politique qui sont revenus, notamment à table ronde, donc pour donner quand même une définition. Ici, je m'inscris dans la perception du la politique du conflit mise en avant par Tilly et Tarot, qui, là je cite, qui définissent le conflit comme des interactions où des acteurs élèvent des revendications touchant aux intérêts d'autres acteurs, ce qui conduit à la coordination des efforts au nom d'intérêts ou de programmes partagés, et où l'État se trouve impliqué soit en tant que destinataire de la revendication, soit comme son instigateur, soit comme tierce partie. Donc voilà, ici, au-delà de l'ennui, les invectives et les références à des éléments politiques précis sont présents. Si on pense à la scène française, ça se voit déjà dans le nom des groupes, alors qu'avant on avait Asphalt Jungle ou Stinky Toys, maintenant c'est Brigade, N-Brigade, ou encore Orchestre Rouge qui font partie des groupes de cette scène-là. Si on rentre sur la question des paroles, si on pense à la souris déglinguée, par exemple avec le titre « J'aurai Stalingrad » qui sort en 81, dans ce titre-là, « Escandé à bas l'État »,« Résistance », et sur « Rock'n'Roll Vengeance », toujours cette même année, il y a les paroles « Est-ce que tu sais pourquoi je te hais ? Pourquoi je me bats contre toi ?» Donc on voit qu'ici, il y a vraiment une critique littérale qu'on peut aussi retrouver dans « Couleurs sur Paris » d'Oberkampf, qui dit « Il est temps de changer, on est gouverné par des croulants ». Il y a une construction d'une opposition concrète entre un « nous » et un « eux ». Et on peut encore signaler plus tard, en 82, la mise en place du label Rock Radical Records, qui là aussi, dès son nom, met en avant cette posture-là. Et Marsu, dans Nyark Nyark, qui disait justement, par rapport au label Bandage, qui sera la continuité de Rock Radical Records, qui disait que la démarche qu'on a eue, je le cite ici, c'est de réaffirmer des valeurs poétiques dans le rock. Donc en Suisse, on a des choses comparables qui se passent. Donc ici, je vous mets un petit extrait du groupe Zurichois TNT. Donc la scène zurichoise est très intéressante, parce que, contrairement à ce qui a été dit sur le punk, notamment en France, mais elle a grande dominante féminine dans la chanson. Donc c'est le cas ici. C'était le cas de Kleenex que j'ai pas pu vous passer, mais c'est le cas chez TNT. Ça, c'est en fin 79 sur le label Vox Pop. Donc ici, déjà, au niveau du son, bon, on n'a pas le contraste avec le titre de Kleenex, mais voilà. Mais ici, les paroles restent néanmoins très peu dirigées contre l'État et continuent d'utiliser les thèmes de l'ennui. Ici, les paroles, c'est « Duri Brennt, die alte Wichselstadt », avec un accent suisse-allemand un peu aléatoire, mais j'aurais essayé. Ça veut dire « Zurich, la ville des vieux cons, Zurich brûle ». Mais normalement, des paroles beaucoup plus politiques et idéologiques vont se mettre en place en Suisse, et on peut citer le cas d'un groupe de Lausanne, HLM Gang, qui vraiment va développer dans ses textes un contenu conflictuel explicite. Ils ont des références précises à des idéologies, et là c'est un deuxième extrait que je vous passe. ici les termes de voilà, destruction, insoumission, autonomie prolétarienne, combattons le pouvoir. Et puis, en ce qui concerne l'Allemagne de l'Ouest, donc voilà, je passe un peu rapidement de différents pays, mais pour essayer d'avoir quand même cette perspective internationale. Donc, j'ai parlé avant d'agressivité. Agressif, c'est juste aussi un terme qui viendra dans un label qui est fondé à Berlin-Ouest en 1980, qui s'appelle Aggressive Rock Production, et qui va notamment produire un des groupes phares du punk plus poétisé en Allemagne de l'Ouest, c'est le groupe Slime de Hambourg, qui, lui, marque ces thématiques politiques dès le titre de ses chansons, avec le premier titre du premier album, c'est We Don't Need the Army, et aussi Bullenschwein, qui veut dire donc port de flic, plus tard Yankee's House, et puis aussi ACAB, là je vous passe aussi un petit extrait, c'est... Donc aussi là, SAB, donc tous les flics sont des bâtards. Et puis aussi au même moment, donc un titre de ce que je viens de passer de 81. Et puis au même moment, à Berlin-Ouest, il y a aussi le groupe Button Combo qui a cette chanson Nazi House, qui est un des hymnes de cette scène à ce moment-là antifasciste qui se développe à Berlin, notamment en conflit ouvert avec les punks plus arty de la première génération autour du club mythique Sauce Axon-Reitzig. Et puis, donc voilà, au-delà, je l'ai mis en deuxième, cette question d'un champ sémantique plus contestataire autour de 1980, mais qui découle aussi sur des pratiques plus assumées de refus de collaborer avec des majors, y compris pour des groupes connus. Donc on peut penser au fait que Kleenex, qui est quand même un groupe relativement connu, qui est un Zurich, ne va jamais signer chez le major, mais rester chez Road Trade. Slime va rester le groupe de Hambourg chez Aggressive Rock Production, et puis voilà, la souris déglinguée reste chez New Rose. On peut penser sur les années qui viennent après avec les Berruriers Noirs qui resteront chez Rock Radical Records. Donc ici, l'autonomie est plus revendiquée que simplement imposée. Ensuite, sur la question de la participation à des mouvements sociaux, au-delà des pratiques qui sont propres à la scène, il y a plusieurs groupes qui vont participer à des actions hors de la scène, donc à des niveaux encore assez faibles selon les scènes à ce moment-là. Alors ce que ça pouvait sembler le mauvais goût absolu pour les toutes premières années du punk en France, par exemple. Donc si la politique partisane elle reste discréditée, de nombreux punks vont quand même participer aux divers mouvements sociaux qu'ils côtoient. Donc en France, on peut penser aux liens et échanges qui existent avec les autonomes qui habitent souvent les mêmes squats à ce moment-là. En Allemagne de l'Ouest, notamment à Berlin et à Hambourg, il y a aussi une participation aux mouvements qui se mettent en place sur la défense de quartier ou la défense de squat. Mais c'est surtout en Suisse qu'il y a là vraiment un phénomène extrêmement intéressant à observer, c'est qu'il y a il y aura une intégration spectaculaire des différentes scènes punk à un mouvement de manifestations jeunes qui vont avoir lieu en Suisse entre 1980 et 1982 dans les plus grandes villes et de façon récurrente. Et les punks vont s'impliquer dedans non seulement en donnant des concerts en soutien à ces mobilisations, mais aussi certains de leurs membres feront partie en quelque sorte de la direction et de ceux qui organiseront ces mobilisations. Et cette participation à des collectifs aura en retour pour effet de poétiser les scènes punk en faisant prendre en compte des objets sociétaux au dehors de la scène. Ainsi, on peut penser à certains fanzines français qui vont mettre en place des rubriques féministes, mais aussi en Suisse, il y aura certains fanzines comme le fanzine Eisprayer qui, à la base, mêlait politique et punk, va changer de nom pour ne parler plus que des mobilisations qui touchent la ville de Zurich et mettre en avant des revendications. Donc sur la conclusion, je vais essayer de savoir. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui nous montreraient voir qu'on a une espèce d'année charnière où vraiment il y a ces mêmes phénomènes qui s'observent de cette façon-là. Et donc je vais raccourcir un peu pour juste dire quelques pistes pour savoir pourquoi ça se passe à ce moment-là. Donc à mon avis, celle que je vous ai mis ici, il y a d'abord le fait que voilà, le genre punk il prend de la bouteille en disant que au-delà des premières années qui sont très hétérogènes, ça commence à se codifier, à se cristalliser. Et aussi les phénomènes de récupération qui peuvent permettre de comprendre pourquoi à ce moment-là il y a un besoin de mieux faire sortir l'éthos d'indépendance. Aussi au niveau des transferts culturels, Il y a les modèles qui changent. À ce moment-là, voilà, Crass joue un modèle important dans les modèles pour les différentes scènes françaises, suisses et allemandes. Sur le deuxième mélange des pratiques sexuelles, le nombre de fanzines qu'on a pu le voir avec la présentation de Samuel Etienne sont beaucoup plus nombreux. Donc il y a aussi une mise en discours plus récurrente des pratiques, puis aussi une année mouvementée. Donc pour différentes raisons en France, on a l'aggravation de la crise qui a pu être mentionnée un peu dans la table ronde avec le chômage qui augmente à ce moment-là en 80 plus fortement qu'en 77. En Allemagne, la répression contre les squats qui passe par exemple pour Berlin-Ouest de 165 à 38 en deux ans. Et puis en Suisse, voilà ce plus grand mouvement. Donc voilà, avec ces éléments-là, ce que je voulais montrer à travers cette présentation, c'est à quel point le punk possède des aspects multiples. Et percevoir le punk de manière historique, c'est justement considéré comme quelque chose de non figé et de non homogène, mais néanmoins traversé par des tendances.